Bah, tout d'abord, merci pour ce bon moment. Hein. Merci au Seigneur de ce bon moment de louange ensemble et ces chants préparés. Moi, je ne sais pas vous, mais il y a des jours, je me dis comme ça, on passerait la journée ensemble, non? À louer le Seigneur, c'est tellement bon de louer le Seigneur. Amen. Oh là là, amen. Ah, vous m'avez fait peur. Bon. Il y a la joie vraiment de connaître le Seigneur. Hein. On peut se réjouir de ses bontés, c'est incroyable, incroyable de connaître le Seigneur. Hein? On peut s'enrager tous les jours de notre vie, être en haut pour le ciel, avoir son nom inscrit dans le livre de vie, connaître Dieu comme un père, être exaucé dans nos prières, connaître sa paix, son amour. Je pense qu'un jour dans ta présence, une heure dans ta présence vaut mieux que mille jours ailleurs. Le psalmiste avait bien raison. Alors, vous savez, dimanche dernier, j'ai pas pu terminer mon message. Alors, cette fois-ci, ben, je le termine. Hein. Alors, accrochez-vous, tant pis pour l'heure, hein. C'est bon? Alors, toute la journée, ok. Et donc, je vous invite, frères bien-aimés, à tourner dans vos Bibles, hein, en Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 17. On va relire ces trois versets que nous avions pris comme sujet de la prédication. Et en fait, nous nous étions arrêtés au verset 17. Alors, ça tombe bien parce que finalement, le Seigneur a dirigé dans sa bonté et j'ai pu développer un petit peu plus ce sujet de comprendre la volonté de Dieu et nous allons le regarder ensemble ce matin. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection comme des insensés, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez la volonté du Seigneur. Prions. Notre Père, ce matin, tu places devant nous une profonde réalité, notre besoin de comprendre ta volonté dans notre vie. Et marche avec toi. Seigneur, apprends-nous à comprendre ta volonté et à nous y soumettre joyeusement, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous voulons porter du fruit, nous t'aimons. Nous voulons que ta vie se manifeste en chacun de nous, dans notre Église, et que ta volonté se manifeste parmi nous. Afin que tu aies l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors, comme nous avons repris l'étude de l'Épître aux Éphésiens, dimanche dernier, nous avions quand même passé un peu de temps à regarder, pour reprendre le train à marche, un résumé un petit peu de ce que nous avions vu, bon, très brièvement, mais vous savez que l'Épître aux Éphésiens est divisé en deux parties, chapitre 1 à 3, ce que nous sommes en Christ, et chapitre 4 à 6, ce que nous vivons en Christ, notre marche, notre combat spirituel. L'apôtre Paul nous a exhortés à partir du chapitre 4 à marcher de façon digne, une marche en humilité, douceur, patience et en unité d'esprit. Ensuite, à partir du verset 17, il nous exhorte à ne pas marcher comme les païens, ce que nous étions avant de connaître le Seigneur. Mais plutôt de marcher en nouveauté de vie, c'est connaître Christ et avoir donc une nouvelle conduite. Et puis à partir du chapitre 5, l'apôtre Paul nous exhorte, et c'est Dieu qui nous parle, à marcher dans l'amour, à l'exemple de Jésus-Christ, le modèle parfait. Et ensuite à marcher dans la lumière. Et nous sommes rendus au verset 15 où Paul nous exhorte à marcher dans la sagesse. Le verbe « conduire » afin de vous conduire avec circonspection pour être traduit à partir de l'original tout à fait par « marcher ». Prenez garde de marcher avec circonspection. Donc nous sommes rendus dans ce message à la marche du croyant, la marche dans la sagesse, c'est la deuxième partie. Nous avons déjà vu donc que nous devons prendre garde à marcher soigneusement, j'aime beaucoup la traduction Darby, soigneusement, avec soin, avec circonspection. L'idée ici de l'original, c'est de regarder attentivement. et ne pas marcher à l'aveugle. Donc un croyant sage est quelqu'un qui ne marche pas à l'aveugle, mais qui regarde soigneusement sa marche, qui inspecte autour de lui, qui ne se laisse pas en quelque sorte dévier du chemin du Seigneur. Donc c'est un avertissement, j'ai marqué sous l'ennelle. Ensuite, non pas comme étant dépourvu de sagesse, mais comme étant sage. Donc c'est une priorité, ou ça devrait être une priorité dans nos vies. Ensuite, saisissant l'occasion, c'est au participe présent dans l'original, racheter le temps, car les jours sont mauvais. En fait, c'est une opportunité quotidienne et quelque part un engagement à ne pas perdre son temps. On l'a vu dimanche dernier. Et puis, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors, nous voulons être des croyants intelligents, n'est-ce pas ? Hein ? Et pour ça, nous devons marcher dans la sagesse, non pas la nôtre, car Christ a été fait pour nous, sagesse, sanctification, rédemption, pour nous, sagesse. Mais une des choses qui devrait caractériser le croyant, né de nouveau, c'est qu'il a une nouvelle vie et il marche en sagesse, celle de Christ. Et donc, ce sont ces deux impératifs que nous n'avions pas regardé, nous n'avons pas pu regarder la dernière fois. Donc, se conduire avec circonspection, racheter le temps, ne pas être inconsidéré et comprendre la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est ce que nous allons regarder ce matin, ne pas être inconsidéré, mais comprendre la volonté de Dieu. Voilà, je prends le temps de m'installer. Alors, le mot grec ici, pour ne pas être inconsidéré, c'est un autre mot que le mot insensé, mais qui pourrait être aussi tout à fait traduit par insensé, quelqu'un qui manque de sens. Et on a vu la dernière fois, on a pris le temps de regarder ce qu'est le portrait de l'insensé selon la Bible et le portrait du sage. En fait, l'insensé, la Bible dit qu'il n'y a point de Dieu. C'est un fou. La Bible dit que le chemin de l'insensé devant Dieu, c'est un chemin de folie parce qu'il exclut Dieu. Il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas que Dieu a quelque chose à faire dans sa vie. Et le chemin du sage, ben, c'est le chemin emprunté pour celui qui veut suivre le Seigneur avec la boussole, la parole de Dieu comme direction et qui donc s'appuie sur Dieu et qui a un nouvel esprit en lui parce qu'il est né de nouveau. Ici, ne pas être inconsidéré ou, comme Darby traduit, d'avoir de l'intelligence, c'est en fait avoir une compréhension de la volonté de Dieu, une compréhension qui n'exclut pas l'intelligence. Vous savez, il y a des approches de personnes un peu mystiques qui attendent d'avoir un sentiment quelque part qui montrerait que voilà, le plan de Dieu, c'est comme une flèche qu'il faut absolument arriver au centre d'une cible. Et si on n'a pas cette conviction, cette perfection en sentiment ou en impression, alors on n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, c'est une façon déséquilibrée de voir. Mais n'empêche pas moins qu'il y a un vrai sens, une sagesse à comprendre la volonté de Dieu. Alors ne pas être inconsidéré, c'est ne pas, nous en tant que croyants, retomber dans le chemin d'une certaine folie, c'est ce que dit la Bible, c'est pas moi, qui consisterait à ne plus marcher avec le Seigneur. Le croyant est devenu un sage, Dieu a fait de nous des sages, et oui, hein, quel privilège, mais en même temps, on peut retomber dans l'inconduite, et un croyant qui retombe dans l'inconduite parce que c'est loin de Dieu, la Bible dit qu'il redevient un insensé. C'est pas qu'il perd le salut, mais il redevient un insensé. Oui, nous avons besoin de comprendre dans le contexte à ne pas être inconsidéré puis comprendre la volonté de Dieu parce que la Bible dit que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais non seulement du temps de l'apôtre Paul et au travers des siècles et l'Église persécutée comprend parfaitement cela. Les jours sont mauvais parce que ce sont des jours de persécution et donc quelque part acheter le temps, mais c'est de profiter de la liberté que nous avons. Et puis, le temps est court. Quand la Bible dit racheter le temps, c'est non seulement Alors je souris, je vais vous dire une petite anecdote. On a eu une réunion du conseil cette semaine et on avait parlé un petit peu du message dimanche dernier. Et puis un des frères a dit, mais tu sais Michel, souvent tu dis il faut racheter le temps. Alors je n'étais pas conscient du tout de cela. Il paraît que je cherche vraiment à racheter le temps. Et c'est bien ça. Chacun de nous, on est pressé, n'est-ce pas? Bon. Mais racheter, le mot racheter, on l'a vu déjà dans le grec la dernière fois, c'est l'idée de racheter, de payer. N'est-ce pas comme nous avons été rachetés au marché de l'esclavage, quelqu'un a payé pour nous, évidemment, c'est Jésus. Qu'est-ce que c'est racheter le temps? Bon, c'est ne pas perdre son temps, c'est vrai. Mais c'est aussi penser, et je vous ai parlé que ce n'est pas simplement le chrono, l'heure, le temps, c'est aussi l'idée qu'on n'a qu'une seule vie à vivre sur terre. Notre laps de temps sur terre, notre durée de temps, c'est Dieu qui l'a fixé. C'est pour ça que David disait notamment « Apprends-moi à bien compter mes jours. » Parce que nous avons qu'une seule vie à vivre sur terre. Le temps est court. Et donc ce temps que Dieu nous donne, nous devons avoir le privilège de l'utiliser pour lui de façon efficace. On pourrait perdre beaucoup d'énergie, n'est-ce pas ? Beaucoup de temps inutilement si on n'a pas cette notion de racheter le temps. Alors soyons une église qui rachetons le temps. C'est mon portable qui sonne dans mon bureau, je ne sais pas pourquoi. Alors racheter le temps, les jours sont mauvais et donc Dieu nous appelle encore à ne pas être inconsidérés parce que le temps est court et parce que les jours sont mauvais. Alors nous avons ici un appel à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez, c'est un sujet important. C'est l'importance de savoir ce que Dieu attend de nous. Et reconnaissons que nous pouvons accomplir bien des choses dans nos vies, même des activités chrétiennes, sans la sagesse de Dieu. En n'étant pas dans la volonté, alors on dit parfaite, la volonté accomplie que Dieu va accomplir dans nos vies. Alors, nous devons faire attention à ne pas courir partout, à nous engager dans toutes sortes de projets, d'activités qui deviennent alors de l'activisme, et finalement, avoir une vie chrétienne futile qui peut, et reconnaissons-le, parfois mener au découragement, parce que quand on est dans une multitude d'activités, on a des attentes multiples, et parfois on peut être d'autant plus déçu. Donc Dieu veut nous apprendre, j'ai marqué, à focaliser au bon endroit. Dieu est un père qui prend soin de ses enfants. Quel est le père qui n'a pas envie de prendre soin de ses enfants? Et Dieu prend soin de nous. Il veut nous apprendre en tant qu'église, oui, on peut établir des activités, des programmes, et c'est bien, mais on ne doit jamais tomber dans l'activité sans Dieu. C'est le danger du croyant, qui peut peut-être vouloir être hyperactif et devenir inefficace. Nous devons apprendre à racheter le temps, à ne pas courir en vain et à comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Un croyant insensé, il peut essayer d'agir indépendamment de la volonté de Dieu, mais il s'aperçoit vite qu'il se fatigue parce qu'il lui manque la puissance du Saint-Esprit. Il lui manque cette force que Dieu veut lui communiquer. Donc la question ce matin, que j'aimerais que nous puissions nous poser ensemble, c'est comment comprendre la volonté du Seigneur. Puisqu'il est dit, ne soyez pas inconsidérés, Seigneur, moi je ne veux pas être inconduit, je ne veux pas être un insensé. Tu m'as donné ta sagesse, on dirait tu as un plan pour moi. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il a été créé comme une nouvelle création, pour de bonnes œuvres préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Le terme grec ici, c'est afin que nous marchions en elles. C'est comme si Dieu, dès le matin, il a comme un plan pour nous. Alors, bien sûr, c'est dans sa grâce, la façon avec laquelle il agit. Et Dieu a préparé des bonnes choses pour nous. Et ce qu'il nous demande, dans la prière, c'est de nous préparer pour juste marcher dans ce que déjà il a préparé d'avance. C'est qu'il y a toute une différence de marcher dans le chemin de Dieu préparé d'avance que d'emprunter son propre chemin pour essayer d'accomplir la volonté de Dieu. Donc comment comprendre la volonté de Dieu? Le premier point que j'aimerais souligner avec vous, c'est que Dieu a un plan pour ma vie. Deuxièmement, Dieu a donné un exemple parfait qui est Jésus-Christ. Et troisièmement, Dieu nous a donné des moyens par lesquels nous pouvons discerner sa volonté. Dieu a un plan pour ma vie. Psaume 32, verset 8, le psalmiste dit « Je t'instruirai ». C'est Dieu qui parle. C'est bon quand Dieu nous parle. « Je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Qui n'a pas besoin de direction, d'orientation dans sa vie? Il y a tellement de domaines dans notre vie pour lesquels nous avons besoin de rechercher la volonté de Dieu, parce que nos décisions peuvent avoir des conséquences importantes et même pour toute notre vie. Exemple, ça y est, vous avez déjà mis dans votre esprit un exemple. Le mariage, faut pas se tromper. Le choix d'une carrière, ça peut, on prend 40 ans avant de prendre la retraite, enfin jusqu'à maintenant, ça prend toute une vie, il faut pas se tromper. En tout cas, être dans la paix du Seigneur. Alors bien sûr, il y a le choix d'une église, il y a toutes sortes de choix. Mais savez-vous que la volonté de Dieu, et j'exprime cela dans une première partie de l'introduction à ce message, elle est largement décrite et révélée dans les Écritures. Il y a des gens qui passent leur temps à chercher la volonté de Dieu, mais déjà, largement, la volonté de Dieu, la révélation générale de Dieu, de qui il est, nous est donnée dans ce livre. Et nous devons lire la parole pour comprendre qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut de moi. Par exemple, bonne nouvelle. Cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est la volonté de Dieu de sauver. C'est merveilleux cela. Vous vous rendez compte? Cela est agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Bien sûr, une condition, c'est de passer par Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dieu veut sauver. Ensuite, le croyant sauvé, découvrant ce plan du salut, il l'accepte, mais il découvre que Dieu est Dieu et qu'il a une volonté pour sa vie. Donc, il cherche à connaître Dieu et à faire sa volonté. Et il réalise qu'il a besoin de cette nouvelle vie qui a commencé en lui pour accomplir la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, par exemple, c'est votre sanctification. Donc, Dieu exprime par ses verbes ou par ses noms, ou largement par ses principes, sa volonté. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Se sanctifier pour Dieu, c'est se mettre à part pour Dieu et mettre à part le péché loin de nos vies. Par exemple, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses. Dieu prend plaisir et désire à ce que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. Alors, même s'il y a de nombreux principes, et je vais arriver au cœur du message, même s'il y a de nombreux principes qui montrent la volonté de Dieu, ici dans le texte, je pense que l'apôtre Paul considère le fait qu'on doit chercher la volonté du Seigneur, dans relation avec Dieu, des choses dans notre vie qui sont au quotidien. Alors, non seulement on doit vouloir obéir au Seigneur en comprenant sa révélation générale de sa volonté pour nous, pour chacun de nous, et même en tant qu'Église, et puis, il y a une volonté personnelle que Dieu voudrait que, la volonté de Dieu, plutôt appliquée à chacun de nous, que Dieu voudrait voir se manifester. Alors, j'ai marqué une façon, évidemment, de commencer à voir ce sujet, c'est de regarder au Seigneur lui-même. Et c'est de suivre son exemple. Alors, je vous donne quelques points clés. J'en ai relevé que quatre, mais il y en aurait beaucoup plus. La volonté de Jésus était en priorité de faire la volonté de Dieu le Père. Il est écrit, certainement vous connaissez le passage, Jean 4, 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Aussi, Jésus a manifesté une dépendance totale envers Dieu. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'exemple de Jésus, Fils de Dieu, Dieu incarné, était l'exemple parfait de quelqu'un qui cherchait toujours à plaire à Dieu son Père, à accomplir sa volonté et ses œuvres. Alors si Jésus dit cela, à combien plus forte raison nous croyants devons-nous dépendre de Dieu pour faire sa volonté, pour la connaître et l'accomplir. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus avait un désir profond d'obéir de façon absolue à Dieu le Père. D'ailleurs, c'est surprenant de voir dans la vie de Jésus tout ce que Dieu accomplit dans sa vie et cette dépendance totale pour choisir les disciples, une nuit en prière, pour faire des miracles, pour aller dans tel endroit. Jésus avait que quelque temps sur terre et c'était toujours l'accomplissement de l'horloge de Dieu. Jésus n'a jamais perdu son temps. Vous n'avez jamais fini la journée. Bon, je fais une petite parenthèse. Et puis vous avez le matin ou dans la semaine, je ne sais pas comment vous fonctionnez, fait toute une liste de choses qui vous semblent prioritaires à faire. Puis vous terminez la journée, puis vous n'avez que rayé, coché qu'une partie. Puis là, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes comme moi? Vous êtes frustré. Vous dites, ah, oh, tout ce que j'ai encore à faire. Vous savez, le Seigneur Jésus, il n'a jamais fait ça. On doit apprendre à entrer dans le repos de Christ. Terminer la journée, il était convaincu d'avoir fait exactement ce que Dieu le Père voulait. Alors, nos agendas deviennent parfois des tyrans, n'est-ce pas, de gestion. Mais quelque part, c'est vrai qu'on doit racheter le temps, n'est-ce pas? Mais on doit faire attention de laisser Dieu agir. Et en tant que serviteur, et vous aussi, bien-aimés, c'est combien de fois qu'on a planifié les choses dans la journée ou dans la semaine ou dans nos vies et que Dieu nous amène dans des temps, des décisions, des choses complètement différentes de tout ce qu'on a pu planifier. Vous êtes d'accord avec moi? Les imprévus de Dieu sont intéressants. Alors ça, c'est le côté exemple de Jésus-Christ. Il a dit ceci, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus était soumis à la volonté de Dieu le Père et non pas à sa propre volonté. Alors, brièvement, je suis encore qu'au début, quelque part, j'ai noté plusieurs aspects que je ne vais pas pouvoir développer à l'instant, mais le croyant, pour faire la volonté de Dieu, doit avoir une bonne disposition de cœur. Notamment, il doit avoir la crainte de Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tout vient du cœur. Avoir le profond désir de faire la volonté de Dieu. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur, dit le psalmiste. Être enseignable, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, dit aussi David. Être humble, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Avoir la foi, confie-toi à l'Éternel tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Être disponible, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi, fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Vaut mieux commencer la journée avec Dieu que de terminer avec des longues prières, parce qu'on s'est aperçu que dans la journée, on a perdu notre temps. On n'était pas là où Dieu nous voulait, et on n'a pas accompli ce que Dieu voulait. À être renouvelé dans son intelligence, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il y a à la fois l'exemple de Jésus, et puis il y a des dispositions de cœur qui sont nécessaires pour recevoir la direction du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. Voilà, ce n'est que le début. On va regarder quels sont les moyens que Dieu utilise pour nous permettre de discerner sa volonté. Premièrement, sa parole. Deuxièmement, les chrétiens mûrs. Troisièmement, le bon sens sanctifié. Quatrièmement, les circonstances. La correction du Seigneur, le Saint-Esprit et la prière. C'est ce que nous allons regarder rapidement à l'instant. Bon, restez. On raconte l'histoire d'un bateau qui devait arriver dans un port où il y avait en face du port beaucoup de récifs. Et donc, les gardiens du port, en quelque sorte, avaient l'habitude de mettre des bouées éclairantes pour montrer le chemin, n'est-ce pas, que le bateau devrait emprunter pour arriver à bon port et ainsi éviter les récifs. Et ainsi, ces lanternes flottantes désigner le chemin à parcourir pour le bâton. C'est la même chose dans notre vie. Dieu ne nous laisse pas des enfants mal éduqués. Il a un père, il veut prendre soin de moi. Il est mon père. Et donc, il aligne des lumières, n'est-ce pas, hein, pour me montrer le chemin, pour arriver à bon port, pour être dans sa volonté. Alors, j'en ai répertorié 7, n'est-ce pas, que vous avez sous les yeux. Premièrement, la Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». La parole de Dieu est très claire dans bien des domaines. Elle nous éclaire pour nous montrer la volonté de Dieu. Par exemple, elle nous interdit certaines choses. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» C'est clair cela. Alors, certains pensent que de suite, on doit l'appliquer au mariage. Parce que Dieu dit clairement qu'on ne met pas, n'est-ce pas, un enfant de Dieu, avec un enfant de lumière, avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et par expérience, on sait que les mariages mixtes ainsi sont difficiles, voire catastrophiques. Je dis bien, voire catastrophiques. Mais c'est valable aussi dans le domaine spirituel de nos vies. Dieu ne veut pas qu'on fasse de compromis avec le monde. Dans le domaine des affaires, il y a des alliances que Dieu nous demande de ne pas faire. Dieu ne veut pas, par exemple, qu'on fasse de compromis avec le mensonge. Le mensonge n'est pas un moyen pour arriver à ses fins. Le mensonge, c'est une erreur devant Dieu. Mentir est un péché. La colère. Certains disent, bon, on se marie pas, mais on vit ensemble. Le concubinage, c'est pas le plan de Dieu, cela. Le plan de Dieu, c'est de se marier. Et puis, alors aujourd'hui, bon, je pourrais parler longtemps là-dessus, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est pas ça que le monde nous propose. Mais il n'empêche pas moins que le plan parfait de Dieu, c'est de se garder jusqu'au mariage, et de se fiancer, de se marier, et puis voilà. Alors évidemment, la société aujourd'hui, comme a dit Billy Graham, les héros de la foi d'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui se gardent purs jusqu'au mariage. Et c'est une parole sage, parce que c'est pas évident. Bon, si quelqu'un est tombé, Dieu pardonne et rétablit, n'est-ce pas? Ce n'est pas l'objet du message. Mais reconnaissons que les compromis, les portes entrouvertes dans nos vies, qui ne correspondent pas à ce que la lumière de la parole m'indique, sont des dangers. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une porte? Si elle est fermée à clé, vous ne pourrez pas l'ouvrir si vous n'avez pas la clé. Si la porte est entrouverte, ce n'est pas si grave que ça encore. Mais entrouvert, c'est la possibilité qu'elle s'ouvre grandement. Donc, quelque part, Dieu nous demande à ne pas faire de compromis. Elle nous donne des principes de la vie chrétienne, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. C'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et donnez pas accès au diable. Juste pour montrer un exemple qu'on a déjà tiré dans l'Épître aux Éphésiens. La deuxième chose que Dieu utilise, ce sont les chrétiens mûrs. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, il le salue dans le grand nombre de conseillers. Nous reconnaissons en tant qu'individus que oui, nous manquons de sagesse. Parce que nous avons besoin d'apprendre à écouter ceux qui ont plus de sagesse que nous. C'est une bonne forme d'humilité, de croire que Dieu peut utiliser des gens plus mûrs, avancés dans la foi, plus expérimentés dans la vie, pour m'apprendre à discerner sa volonté. La Bible dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Alors voilà ce que dit la Bible par exemple. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Vous savez, il y a une expression dans le grec « alléloi, allélous », en français, les uns les autres l'un l'autre, qui est abondamment exprimé dans le Nouveau Testament. Dieu s'attend à ce qu'on ait un ministère l'un envers l'autre, les uns envers les autres. Aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres, portez les fardeaux les uns des autres, etc., etc., etc. Dieu parle au travers des autres. Je ne peux pas dire que je suis un homme sage si je ferme mes oreilles et j'entends pas ce qui m'entoure. La Bible dit, par exemple, enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, d'écouter des gens plus mûrs, plus sages, n'est-ce pas? Ses parents, dans les choix importants de la vie. Évidemment, dans l'idéal familial, c'est des parents qui connaissent le Seigneur et des hommes mûrs autour de vous, des femmes mûres qui ont de la sagesse. Mais on peut en trouver. Et je pense des fois, dans certaines parties et sections de la vie, de certaines personnes qui vivent, qui essayent de vivre la volonté de Dieu. C'est le danger pour chacun de nous, mais qui n'écoutent pas, qui ne veulent pas être redevables envers les autres. C'est de l'individualisme, et ça ne marche pas. Dieu nous a fait... En tant qu'Église, une famille, de nous une Église, une famille. Et nous avons besoin les uns des autres et nous apprenons tous les uns des autres, n'est-ce pas? Chacun de nous, nous pouvons apprendre. Moi, je me réjouis de voir les fruits, les dons de la grâce de Dieu s'exprimer dans vos vies et j'apprends de vous. C'est merveilleux. Le troisième chose, c'est le bon sens sanctifié. Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, disait le Concile de Jérusalem. Et puis en 2 Thessaloniciens, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelle lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Dieu nous a donné de l'intelligence. Amen. C'est pour qu'on s'en serve. Alors, parfois, l'intelligence devient un obstacle lorsque le raisonnement humain prend le dessus de la logique de Dieu. Je ne sais pas vous, mais enfin, moi, ça, c'était un grand piège pour moi d'essayer de raisonner. Il faut que je trouve une logique de vie et donc je raisonne. Si c'est raisonnable, c'est logique, c'est donc bien pensé. Seulement, la logique grecque, notamment, la façon avec laquelle nous pensons, n'est pas toujours, évidemment, la façon avec laquelle Dieu pense pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit exclure le raisonnement. Ça ne veut pas dire qu'on doit devenir des chrétiens passifs, n'est-ce pas, dont l'intelligence endormie absorbe toute espèce de choses ou vise un mysticisme, n'est-ce pas, illuminé, qui fait que par sentiment, voilà, Dieu m'a dit que, alors le sentiment ne durant pas, l'action s'achève rapidement. On a parlé de beaucoup d'actions inachevées, commencées par des chrétiens de bonne volonté, mais qui agissent dans leur force et non pas dans... le plan et la constance d'avec Dieu. Dieu nous a donné une intelligence et Dieu nous demande de renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. Dieu veut utiliser le bon sens. Alors parfois, comme j'ai déjà mentionné, certains croyants voudraient accomplir la volonté de Dieu jour après jour, comme si Dieu a un point central et chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Moi, j'ai pensé comme ça un moment dans ma vie. Alors, je ne sais pas si certains auraient cette tentation de penser qu'à chaque instant, Dieu a un plan, il faut être dans la volonté de Dieu, puis si on pense qu'on a raté, on est très malheureux. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on est dans la volonté de Dieu, quand on l'a quitté, quand on est revenu. C'est une façon infantile, n'est-ce pas, de voir la volonté de Dieu. Dieu nous a donné de l'intelligence. Maintenant, il faut dire que parfois, il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, et une façon d'exercer sa foi dans les décisions où on a consulté peut-être la parole, on a demandé conseil, mais on n'a pas encore tout à fait une conviction. Par exemple, je ne sais pas, un choix d'université, pour donner un exemple, n'est-ce pas? Mais c'est de prier, puis de prendre la décision, parce qu'il y a des décisions à prendre à un moment donné. Dire, Seigneur, je prends cette décision, et j'ai confiance que si je me trompe, eh bien, tu me le montreras ou tu dirigeras ma vie autrement. Si on n'a pas une conviction ou une paix particulière pour faire tel choix, Dieu peut-être nous demande de faire un pas de la foi tout en croyant en la souveraineté de Dieu, en s'y soumettant, en remettant le choix que l'on fait. Parce que rechercher la volonté de Dieu et devenir un perfectionniste de la volonté de Dieu peut amener de l'indécision qui est une forme d'infantilisme spirituel. Dieu me demande à prendre les décisions et à lui faire confiance. Un quatrième point Ce sont les circonstances. Vous savez, nous les chrétiens, on est des spécialistes pour dire aux autres, mais mon frère, ma sœur, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est vrai qu'il y a toute une puissance dans ce verset et toute une vérité. Mais c'est vrai lorsque le croyant est centré sur Dieu et qu'il est capable d'accepter que Dieu est souverain dans sa vie. C'est Dieu qui ouvre et qui ferme les portes. C'est Dieu qui est au contrôle de l'univers. Je pense qu'on tourne à l'instant à 50-500 mètres par seconde dans l'univers. Bon, Dieu est au contrôle. Je n'ai pas le tourniquet, vous non plus, vous êtes assis. Tout ne tremble pas, mais bon, tremblement de terre parfois, mais Dieu est au contrôle. Les milliards d'étoiles, les galaxies, on en découvre de plus en plus. L'infiniment grand, bon, c'est de Pascal. Dieu est souverain. Moi, chez moi, j'aime sortir la soir, souvent avec Louis, on sort tard dans la nuit, et on fait une marche de santé juste avant de se coucher, et puis on regarde les étoiles. Et là, je peux vous dire que je loue Dieu. Mon Dieu est grand, et je me sens rien. Mais de louer Dieu, et de voir sa puissance de la création, ça me réconforte. Cette même puissance physique qu'il démontre dans les cieux, il le démontre aussi dans sa grâce, sa bonté envers moi, dans son amour. Donc je me confie en ce Dieu tout-puissant qui est souverain et c'est lui qui ferme et qui ouvre les portes. Il faut croire que Dieu, parfois, peut dire non. Ou peut-être, ou plus tard. Mais nous devons apprendre à accepter la souveraineté de Dieu. Ne pas tomber dans l'excitation pour arriver à accomplir des choses par nous-mêmes dans des grandes décisions de notre vie, des choix ou autres, vous avez compris. Nous devons accepter que Dieu peut diriger les circonstances, les événements autour de moi. Je ne peux peut-être pas changer même certains événements, mais je peux avoir la foi que Dieu est au contrôle des événements et qu'au travers même de l'épreuve ou des situations, il va aboutir à quelque chose. Parce que Dieu est notre Père, rien ne lui échappe. J'ai marqué aussi que Dieu est le seul qui peut transformer le mal en bien. Il n'y a pas une seule situation, une seule circonstance, même la plus terrible, que Dieu ne peut pas transformer à sa gloire. Le but, l'enjeu, c'est la gloire de Dieu. Dieu veut se glorifier dans ma vie, peu importe les circonstances que je traverse. Donc je dois croire que Dieu peut me parler au travers des circonstances. Paul disait, prie en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Les circonstances de Paul enchaînées en prison. La gloire de Dieu, il écrit les épîtres. Je resterai néanmoins effet jusqu'à la Pentecôte car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Tiens, Dieu bénit, en même temps il y a l'adversité. Si on n'est pas mûr, on ne comprend pas que la bénédiction de Dieu peut être accompagnée d'épreuves, n'est-ce pas, de résistance autour de nous. Parce que celui qui voudra vivre pieusement Jésus-Christ sera. Donc, il faut s'attendre parfois à des circonstances où, si on est spirituel, on pourrait voir l'inverse en face de nous. Ça ne veut pas dire que Dieu, on n'est pas dans le plan de Dieu. Il y a des missionnaires qui ont travaillé des années dans des endroits, semant la parole de Dieu. Et c'est après des années, même sans qu'ils soient plus là, que Dieu a béni la parole et a fait, une gerbe de moisson extraordinaire dans la vie de personnes. Donc Dieu est souverain. Alors les exemples, on pourrait en donner, n'est-ce pas, dans nos vies et puis aussi au travers de livres qu'on a pu lire, mais je pense à un missionnaire qui s'appelait Adoniram Judson, qui était étudiant, qui était prêt à partir en Inde. Et en fait, son bateau a échoué en face de la Birmanie. Et il est resté missionnaire toute sa vie en Birmanie. Et c'est un homme qui a traduit la Bible en birman, qui l'a distribuée. Il y a des milliers de gens qui sont convertis dans un conflit anglo-birman. Ça n'a pas été facile. C'est un homme qui a tellement souffert dans sa vie. Un livre qu'il a écrit, qu'on a écrit à son sujet, qui s'appelle « La splendeur avec Dieu ». Quand vous allez lire ce livre, vous allez être brisé, vous allez pleurer. Tellement de voir cet homme qui a souffert pour accomplir la volonté de Dieu. Et dans les situations adverses qu'il traversait, il a perdu sa femme, ses enfants. On l'a jeté à l'eau pour le tuer. Et bien d'autres affaires. Il a vu la puissance de Dieu. Vous connaissez l'histoire de, n'est-ce pas, la femme de Jim Elliot qui est allée à l'endroit même où on a tué son mari. Elle est revenue là. Elle a montré l'amour aux femmes des maris qui avaient tué son mari, les autres missionnaires. Elle les a gagnés au Seigneur. Il y a des circonstances où Dieu se manifeste avec sa puissance. On ne comprend pas toujours, et j'aime bien l'illustration, et là je me répète, la tapisserie du Moyen-Âge, n'est-ce pas, que l'on voit dans ces châteaux du Moyen-Âge, Chambord, etc., que l'on trouve, raser le rideau. Alors on voit cette belle tapisserie, mais quand on tourne la tapisserie, on voit des fils partout, à tous azimuts, on se dit, où est-ce qu'ils vont? Et c'est pareil dans nos vies, des fois Dieu construit avec des fils, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Ah oui, au ciel, on va tout voir. Et on va être surpris de la façon avec laquelle le Seigneur a agi dans nos vies. Parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire, et c'est lui qui émet des circonstances. Le cinquième point, alors il en reste combien encore? Vous restez avec moi? Ok, merci. La correction du Seigneur, surtout que c'est important ça, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Tournez avec moi rapidement à Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Il y a parfois le croyant qui passe par des moments difficiles, mais savez-vous qu'il est l'objet de la verge, de la correction de Dieu? Et c'est un privilège d'être châtié par Dieu, parce que c'est la preuve qu'on est son enfant. Supporter, verset 7, le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car il est le fils qu'un père ne châtie pas. Mais si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au père des esprits pour avoir la vie? Des fois, Dieu est obligé de nous corriger pour apprendre l'obéissance, exactement comme on doit faire envers nos enfants si nous les aimons. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu veut que nous soyons saints. Vous serez saints car je suis saint. C'est sa volonté. Donc il me fait participer à sa sainteté, mais parfois il me corrige parce que j'en ai besoin. Il est vrai que tout châtiment, c'est d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été exercés, un fruit paisible de justice. Donc nous devons croire que Dieu utilise sa correction pour nous ramener sur le droit chemin et l'accepter. Et ça inclut la discipline personnelle que Dieu exerce dans ma vie, comme la discipline que Dieu exerce dans son Église. Philippiens 4, 4, 7, la Bible dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien sûr que le Saint-Esprit influence ma vie pour discerner la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit peut influencer ma volonté, mes sentiments, mon intelligence de manière à ce qu'il accomplisse ce que Dieu veut. La Bible dit, je t'instruirai, te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Paul disait en acte, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Et ainsi de suite. On voit différents endroits où Dieu a utilisé, évidemment, abondamment son esprit pour nous diriger. D'ailleurs, vous savez, c'est incroyable quand on étudie la parole de Dieu. Il y a vraiment une logique extraordinaire. La Bible dit « marche dans la sagesse ». Alors, il ne faut pas se conduire en insensé. Il faut racheter le temps, les jours sont mauvais. Il faut ne pas être inconsidéré. Il faut comprendre la volonté du Seigneur. Et qu'est-ce qui est juste après le verset ?« Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Est-ce que nous sommes des gens remplis du Saint-Esprit ? Est-ce que nous cherchons la face de Dieu pour être remplis du Saint-Esprit ? Il y a bien des tourments, bien des erreurs, bien des fautes que le croyant éviterait s'il cherchait à s'attacher à Dieu et à demeurer en Christ, comme le sarment demeure dans le cep, afin que la sève coule. C'est nous qui obstruons les canaux que Dieu voudrait remplir, reconnaissons-le. Et nous nous compliquons bien souvent la vie parce que nous ne voulons pas nous soumettre à la vie de l'Esprit. C'est tellement plus facile d'être rempli de Jésus-Christ et de le laisser nous diriger dans les choses, peut-être qu'ils ne sont pas écrits dans la Bible, ce n'est pas écrit telle date, aller à l'université, telle date, faire choix, et le nom du conjoint ou le nom de la carrière. Il y en a qui aimeraient bien ça, ouvrir la Bible. Ah oui, il va s'appeler Simon, elle va s'appeler Juliette. Vous avez compris. Et je terminerai, la prière. Je ne l'avais pas marqué, puis je me suis dit, justement, cette semaine, j'ai vécu certains moments avec le Seigneur. Et je dois dire que la prière fait toute une différence dans notre vie, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas l'exclure comme moyen par lequel Dieu utilise pour que je comprenne et discerne sa volonté. Colossiens 1, verset 9-10. Allez, tournez vos Bibles. Faites un peu d'exercice avec moi. Colossiens 1, verset 9-10. C'est pour cela, c'est Paul qui parle, que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Paul avait un fardeau envers ses Colossiens. Nous demandons que vous soyez remplis de quoi ? De la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles entre l'épître aux Éphésiens et aux Colossiens. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Tiens, en Éphésiens aussi, on est appelé à marcher de manière digne. Comment fait Paul ? Il prie pour que les Colossiens connaissent la volonté de Dieu. Alors, pourtant, bien des écrits avaient été écrits ou allaient être écrits. Nous avons l'écriture, mais nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps de prier, frères et sœurs, pour discerner la volonté de Dieu ? Vaut mieux commencer la journée le matin, de bonne heure, pour prier et connaître sa volonté, que de nous agiter, n'est-ce pas, comme un aigle qui s'épuise, qui a contre-vent, à contre-courant et qui s'épuise. Et l'aile ne fait jamais ça. L'aile, il reprend le vent, il laisse ses ailes se reposer, puis il reprend le courant, et hop, il remonte dans les cieux, il descend. Et nous, parfois, nous nous agitons, nous nous épuisons, parce que nous sommes à contre-courant de la pensée de Dieu. Et parfois, les petites choses qui semblent toutes simples sont pourtant importantes pour Dieu. Il y a des habitudes de nos vies que nous devons changer, parce que peut-être elles ne sont pas dans l'ordre prioritaire de Dieu. Alors, la marche dans la sagesse, c'est se conduire avec circonspection, racheter le temps, ne pas être inconsidéré, comprendre la volonté de Dieu. Ma conduite chrétienne est-elle sage ? Alors, peut-être il faut demander aux autres. Mais on a une idée quand même. On connaît ses points forts, ses points faibles. On a une certaine idée. Mais est-ce que ma conduite est sage dans la sagesse de Christ? Alors, pour comprendre la volonté de Dieu, je ne dois pas oublier que Dieu a un plan pour ma vie, que sa volonté est largement décrite dans les Écritures. Pour faire la volonté de Dieu, donc marcher dans la sagesse, hein, c'est toujours le sujet, je dois tout d'abord connaître Dieu et vouloir lui obéir. Dieu a différents moyens pour me faire connaître sa volonté. J'ai marqué sa parole dans laquelle Dieu me révèle ses préceptes. Les chrétiens mûrs par lesquels je suis exposé à la sagesse de Dieu et au conseil des autres, le bon sens sanctifié car Dieu a renouvelé mon intelligence, les circonstances où Dieu s'exprime par sa souveraineté, la correction par laquelle Dieu me redresse si je fais fausse route, le Saint-Esprit qui désire me remplir et la prière qui est mon intimité, le reflet de mon intimité avec Dieu. La Bible dit en Ésaïe, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. J'ai marqué, il vaut mieux suivre Christ par obéissance immédiate que par châtiment. Nos désobéissances ont toujours des conséquences sur notre avenir. Croyons de tout notre cœur, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Reconnaissons que le problème, c'est nous. C'est jamais Dieu. Nous devons apprendre à vivre dans sa sagesse, parce qu'il veut nous y conduire. Et si nous devions alors reconnaître que nous manquons de sagesse, il y a une merveilleuse promesse. Je dois marcher dans l'amour. Je manque d'amour. Je peux demander à Dieu de l'amour. Je dois marcher dans la lumière. Par ta lumière, je vois la lumière, dit la Bible. Jésus est la lumière du monde. Je peux retrouver la lumière. Je manque de sagesse. Je peux demander la sagesse. Car la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande avec foi, sans douter, et elle lui sera donnée. Dieu est prêt à me donner cette sagesse. C'est merveilleux. Non ? Prions. Seigneur Jésus, tu es l'exemple parfait de soumission à la volonté divine. Nous voulons te suivre dans ce chemin. Tu nous as laissé aussi au moins 7 moyens par lesquels nous pouvons puiser la sagesse. Merci de la communion que tu nous accordes. Et Père, je te demande ici s'il y avait quelqu'un qui reconnaît, et je crois que nous sommes tous là d'ailleurs, à reconnaître dans un tel ou tel domaine de notre vie que nous manquons de sagesse dans notre conduite. Eh bien Seigneur, aide-nous à nous redresser, à confesser cela, à l'abandonner, à changer nos habitudes, nos pensées, à réviser peut-être les mécanismes de nos vies, les rouages de nos vies, nos décisions. Aide-nous à être patients aussi, Seigneur. Il est bon d'entendre dans le silence de Dieu, et parfois, Seigneur, nous nous agitons parce que nous sommes impatients. Mais Seigneur, donne-nous dans ta bonté de t'écouter. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute, disait Samuel. Seigneur, ce matin, tu nous as appelés à t'adorer dans des chants merveilleux de louanges, d'adoration. Et puis tu nous as appelés, ou tu nous rappelais que nous devons vivre dans la sagesse. Merci de nous avoir enseigné dans ton esprit, au nom de Christ. Amen.